Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA. Je suis en compagnie de Clément Wittmann du Parti des Objecteurs de Croissance qui est venu dans le DIWA nous présenter son programme car il va se présenter pour l'élection présidentielle donc l'année prochaine. Monsieur Wittmann, bonjour.
Bonjour, bonjour à vous tous.
Voilà, donc vous avez un objectif assez ambitieux, donc vous êtes inscrit dans une démarche de recherche de signatures, je suppose, pour être capable de vous présenter pour l'élection présidentielle.
Oui, absolument, c'est le parcours qui est engagé maintenant depuis quelques mois, donc de rencontrer les élus, les personnes donc qui sont en mesure d'apporter leur parrainage à cette candidature Objecteur de Croissance.
Et alors, vous avez bon espoir d'obtenir les 500 ?
Les 500, bon, le challenge est effectivement très difficile à partir d'un programme quand même d'une radicalité telle que celle de l'objection de croissance. Mais je suis assez confiant. Actuellement, j'arrive à 80 parrainages. Après 4 mois de campagne, il me reste 6 mois pour en trouver encore 420. Bon, bien sûr, c'est un peu difficile, mais ce n'est pas tout à fait inaccessible.
Alors, avant de parler de votre programme, on va peut-être un petit peu vous présenter votre parcours, votre motivation, pourquoi vous êtes lancé dans la politique. Et après, on va vous parler peut-être du Parti des Objecteurs de Croissance pour en arriver à ce que vous proposez.
D'accord. Alors, je suis militant écologiste depuis une trentaine d'années, hein, puisque j'étais, il y a une trentaine d'années, j'étais objecteur de conscience. Hein, j'avais refusé de faire mon service militaire. Et pendant donc ces 2 années de service civil, j'ai travaillé dans le Parc national des Cévennes sur différents programmes de réintroduction des espèces telles que le vautour, l'aigle de Bonelli ou le faucon pèlerin. Donc, à la sortie de ce service civil, j'ai, je dirais, naturellement adhéré au Parti des Verts, à l'époque de René Dumont, parti pour lequel je me suis fait quelques présentations à des élections locales, élections législatives, élections cantonales, essentiellement en Lorraine. Donc, voilà, l'écologie politique, l'écologie et la politique, ce ne sont pas des choses que je découvre, puisque ça fait maintenant 30 ans que je milite dans ces milieux-là. De même que les milieux pacifistes, j'ai toujours participé à des actions du mouvement de la paix ou d'autres mouvements pacifistes, donc opposés à l'utilisation de la violence comme étant le moyen de résoudre les conflits.
Donc, qu'est-ce que c'est que ce Parti des Objecteurs de Croissance, alors ?
Alors, le Parti des Objecteurs de Croissance, c'est un parti, comme le nom l'indique, peut-être pas d'ailleurs, c'est de présenter une critique radicale du concept économique de la croissance qui nous est inlassablement présenté comme étant la solution à nos problèmes, essentiellement nos problèmes de chômage. Donc, c'est un mensonge que nous combattons donc au quotidien, je dirais, puisque, par exemple, je ne vais pas utiliser trop de chiffres, mais simplement quand même pour dire aux auditeurs de Radio DIWA que entre 1960 et 2007, le produit intérieur brut mondial est passé de 2000 milliards de dollars à 54 000 milliards de dollars. Donc ce produit intérieur brut mondial a été multiplié par 30 et dans le même temps le chômage a augmenté. Donc il faut arrêter de nous dire qu'il faut de la croissance pour régler la question du chômage. Donc non seulement c'est un mensonge, si vous voulez, sur le plan de la réussite, je dirais, sociale, mais à l'opposé, si vous voulez, c'est un formidable drame et c'est un véritable saccage de l'environnement. Quoi. Voilà.
Comment vous comptez y arriver ? Alors, si la croissance n'est plus la panacée, ce qui est effectivement un constat que tout le monde peut se faire avec un peu de bon sens, qu'est-ce que vous proposez alors, vous ?
Eh bien, nous, on prend très souvent l'image du gâteau. Hein. Pour nous, il n'est pas question d'augmenter la taille du gâteau pour des raisons écologiques maintenant à peu près acceptées, je pense, par tout le monde. Donc, la première chose pour nous, c'est déjà de revenir dans un monde décent, c'est-à-dire que on va commencer par répartir la taille du gâteau, la taille des parts du gâteau exactement. Pour ça, par exemple, nous avons, parmi les projets de cette campagne, nous avons mis la décroissance des inégalités comme étant un des premiers projets pour revenir, encore une fois, à une société décente, une société qui ne méprise pas ses membres, qui donne à tous les gens, nous sommes donc bientôt 7 milliards sur cette planète, et tout le monde a droit à vivre dans des conditions décentes, c'est-à-dire l'accès au logement, l'accès à la nourriture, l'accès à la santé, etc. Alors pour donner là encore une fois une idée un petit peu de ce scandale entre cet accaparement des ressources entre quelques privilégiés, les 793 personnes les plus riches de la planète possèdent un patrimoine de 2600 milliards de dollars, ce qui équivaut à la dette des pays du tiers-monde. Uniquement à 793, c'est-à-dire un gros village, quoi, en quelque sorte. Les 500 personnes les plus riches possèdent l'équivalent des 416 millions les plus pauvres, voyez. Donc on est vraiment, pour moi, dans une situation qui est du domaine de la barbarie, quoi.
Voilà. Oui, c'est le traditionnel argument employé par les mouvements contestataires qui disaient, oui, prenez aux riches pour donner aux pauvres. Mais est-ce que c'est quelque chose qui peut fonctionner, ça? Est-ce que c'est convaincant?
Ben, pour moi, c'est nécessaire, quoi. C'est nécessaire pour revenir à quelque chose d'une société simplement humaine, quoi, hein, en fait, qui respecte, encore une fois, la déclaration des droits de l'homme. Je crois que nous sommes dans un système déshumanisé. Hein. Je crois qu'il y a un mal de vivre quand même là aussi. Je veux dire, si on fait le bilan de ces années de croissance, on a de la pollution, on a du chômage, on a de la pauvreté, on a des mal de vivre, on a des gens qui sont en souffrance. J'étais donc pendant quelques jours à Paris, nous avions fait quelques actions à Paris, et j'observe les gens dans le métro, etc. On sent une tristesse, on ne sent pas une joie de vivre. Donc le bilan de ces années-là, pour moi, est absolument désastreux. Et puis, je crois aussi, l'ampleur vraiment d'un enjeu historique, c'est de faire en sorte qu'on prenne des décisions qui permettent que la vie, tout simplement, soit encore possible sur la planète, quoi. La menace climatique, elle est toujours ignorée des programmes actuellement, où l'impact sur la biodiversité de l'ensemble de nos activités est toujours ignoré par les grands partis de l'UMP au PS, donc PS, les associés d'Europe Europe Écologie. On est sous la menace de ces 500 milliards de tonnes de CO2 qui sont bloquées dans le permafrost, quoi. À chaque fois, si vous voulez, qu'une collectivité, qu'un parti politique nous dit qu'il faut de la croissance, ils sont responsables de la fonte de ce permafrost, quoi.
J'entends bien, mais personnellement, j'adhère à votre indignation. Néanmoins, ça me paraît un peu léger comme programme de dire, voilà, on va répartir la richesse à tout le monde. Quelle autre mesure proposez-vous?
Ben, pour revenir à cette équité, on est des militants, je dirais, acharnés de la notion de limite. Remettre des limites, par exemple, hein. Nous sommes militants du revenu maximum, quoi. De plafonner les revenus, là encore, pour revenir à des écarts plus acceptables entre les gens qui ont des hauts revenus et des gens qui ont des revenus plus faibles. Nous, on est pour une échelle de 1 à 5, par exemple, dans le revenu les plus supérieurs et le revenu de base, quoi. Donc, on est aussi pour la limite à la vitesse. Par exemple, c'est pour ça que nous sommes des opposants au TGV, aux lignes à grande vitesse. Nous pensons qu'il n'est pas d'intérêt général d'investir des milliards d'euros pour gagner parfois quelques minutes sur un trajet, comme c'est le cas, par exemple, pour la liaison Paris-Rennes qui a été décidée il y a quelques temps. Donc, d'investir 3,7 milliards d'euros pour gagner 25 minutes sur ce trajet. Je ne pense pas que cela soit d'intérêt général. Donc, remettre des limites aux revenus, remettre des limites aux vitesses. Moi, j'ajouterai aussi un point qui est important, c'est de remettre des limites aussi à la taille des agglomérations. L'aménagement du territoire depuis des années concentre les populations, concentre les activités dans des zones urbaines, au détriment bien sûr des campagnes qui deviennent de véritables déserts, déserts à la fois sur tous les plans, hein, économiques, démographiques, humains, etc. Donc moi je suis vraiment partisan de remettre donc des limites à l'agglomération ou à la taille des agglomérations, de sorte à conserver encore un équilibre dans l'aménagement du territoire et que les activités puissent se faire partout. Là aussi, j'essaye toujours, au cours de mes interventions, de faire le lien entre les décisions politiques et puis leurs conséquences sur l'environnement. Lorsque Rachida Dati, par exemple, a fait sa réforme de la carte judiciaire, donc en fermant les tribunaux, elle a provoqué, je dirais, du CO2, puisque lorsqu'un tribunal ferme en zone rurale, les gens sont obligés de faire 100, 200, ce qui est par exemple le cas, je prends l'exemple souvent d'un tribunal qui a fermé en Bourgogne sur la commune de Châtillon-sur-Seine, qui est à 110 km de Dijon. Donc à partir de la fermeture de ce tribunal, les gens qui ont des dossiers donc à défendre doivent se rendre à Dijon maintenant. Dijon qui est à 110, donc ça leur fait 220 km aller-retour, alors que voilà, auparavant, le tribunal était à Châtillon-sur-Seine. Le cas est identique pour les hôpitaux, bien sûr. Ici, à Dijon, j'ai entendu qu'il y avait une menace de fermeture de l'hôpital. Le jour où l'hôpital ferme, bien sûr, c'est encore des allers-retours de VSL, etc. Donc avec une fois de plus des conséquences en termes de CO2. Voilà. Donc, il y a une urgence pour moi aussi de maintenir les services publics en milieu rural. C'est véritablement quelque chose de très, très, très important.
Alors, comme autre mesure phare de votre programme, continuons un petit peu.
Comme autre mesure phare, je développe aussi souvent cette nécessité d'un retour en démocratie. Je le constate une fois de plus après ces quelques mois de campagne. Nous sommes véritablement un système oligarchique, c'est-à-dire un système dans lequel la collusion entre le monde politique, le monde des affaires et le monde des médias et de la presse fait en sorte que, finalement, la population se voit confisquer un accès à d'autres idées, quoi. Je suis régulièrement censuré dans la presse, sur certaines radios, donc où mes propos sont coupés, en tout cas. Donc l'urgence, effectivement, pour moi, c'est de mettre en place un système de tirage au sort, de sorte à ce que l'accès aux fonctions électives ne soit plus réservé à une élite intellectuelle ou financière. Notre système électif actuellement sélectionne des gens qui ont du temps, des gens qui ont de l'argent et des gens qui ont des relations. Donc à partir de là, il y a des populations entières qui sont exclues de la scène et de la prise de décision, et je ne vois pas pourquoi dans une démocratie, la caissière de supermarché, l'ouvrier du bâtiment ou la personne au chômage n'aient pas possibilité de participer aux décisions. Nous sommes dans un pays, par exemple, où il y a 5 millions de chômeurs, vous n'avez aucun député au chômage, vous n'avez aucun sénateur au chômage. J'ai fait une petite étude il y a quelques temps. Sur l'ensemble des conseillers régionaux de France, j'ai trouvé un conseiller régional demandeur d'emploi sur la région Île-de-France, quoi. Voilà. Donc, vraiment, la population est écartée des prises de décision et Pour nous, l'antidote à cette négation, à ce dysfonctionnement de la démocratie, c'est le tirage au sort, c'est-à-dire que parmi les gens volontaires, on pourrait désigner des gens donc de façon à permettre l'accès à ces élections pour les gens qu'on dit de la France dite d'en bas.
Alors vous allez tout de suite me répondre, je sens que vous êtes prêt, mais ne faut-il pas des compétences pour prendre des décisions pour le bien commun? Ne faut-il pas une formation justement qui validerait ces hommes politiques en fait, non? Ou alors est-ce que n'importe qui pris au sort, alors tout d'un coup vous parliez d'un chômeur ou d'un ouvrier du bâtiment, il serait tiré au sort, d'abord il serait volontaire si j'ai bien compris, et tout d'un coup il se verrait investi de choix décisionnels, bon je suppose pas tout seul, mais en tout cas serait-il compétent pour prendre des décisions?
De mon point de vue, je crois que quand une personne est capable de gérer son budget, son ménage, il est capable de gérer un État ou une région ou un conseil général. Je crois qu'il est d'autant plus capable de le faire, puisque j'ai encore relevé dans la presse il y a quelques jours que 5000 communes, je crois, qui sont maintenant surendettées, qui sont en situation de surendettement pour avoir souscrit des emprunts toxiques. Voilà. Et ces communes, donc, sont gérées par des gens, nous dit-on, compétents, entourés d'experts financiers, et malgré tout, ont souscrit, sont dans une situation financière extrêmement difficile. Peut-être que ces choix n'auraient pas été pris si nous avions affaire, encore une fois, à une assemblée populaire. Je cite souvent un autre exemple, l'exemple de la pêche européenne, donc où Maria Damanaki, la commissaire européenne à la pêche, déclarait il y a quelque temps dans un grand quotidien national, en disant « L'Union européenne verse depuis des années des millions d'euros à ses États membres pour construire des gros bateaux, et puis maintenant, donc, l'Union européenne verse maintenant des millions d'euros pour détruire les bateaux dans la mesure où il y a eu de la surpêche, quoi. » Voilà. Donc, ce type d'exemple, effectivement, je peux les multiplier à l'envi. J'étais, il y a quelque temps, en Ariège, où le Conseil général de l'Ariège avait décidé une subvention de 900 000 euros pour les stations de ski qui étaient en déficit en Ariège, stations de ski qui ont déjà été subventionnées pour faire des canons à neige, etc. Je crois que nous n'aurions pas ces situations de surendettement. Les choix comme le TGV, par exemple, ne se feraient pas si vraiment c'était des choix populaires.
Oui, alors j'entends bien qu'il n'y a pas de gage que nos hommes politiques soient plus compétents parce qu'ils ont une formation, mais je ne vois pas non plus pourquoi quelqu'un tiré au sort serait plus compétent pour prendre des décisions plus saines. Ça, je n'ai pas encore compris le lien.
Je n'ai pas dit qu'il serait plus compétent, mais il serait déjà à l'abri de certaines formes de corruption qui existent quand même, qui sont malheureusement assez répandues dans notre pays. Et puis, je crois qu'il prendrait des décisions vraiment dans l'intérêt général, ce qui n'est pas le cas du monde politique, puisqu'il y a encore une fois cette collusion entre le monde des affaires. Je vais prendre un exemple pour bien illustrer pourquoi et comment, quand un élu arrive au pouvoir, il finit par répondre non pas au peuple, à la demande du peuple, mais il finit par répondre à celui qui le finance. Je cite souvent l'exemple de François Mitterrand. François Mitterrand avait des liens d'amitié avec la famille Bettencourt. Hein. Donc, quand en 46 et 47, François Mitterrand n'avait pas de travail, c'est André Bettencourt qui l'a fait embaucher comme rédacteur en chef de La France Agricole et puis l'année suivante d'un journal féminin qui s'appelle Votre Beauté. Donc, les liens d'amitié ont commencé à cette époque-là. Et puis, donc, par la suite, André Bettencourt a financé les campagnes de François Mitterrand, comme celle de Pierre Bérégovoy aussi. Si bien que lorsqu'arrivé en pouvoir en 81, François Mitterrand commence à préparer sa loi sur l'impôt sur les grandes fortunes, André Bettencourt est au courant et immédiatement demande à être reçu à l'Élysée. Il se rend à l'Élysée accompagné du patron de L'Oréal pour dire à François Mitterrand « Écoute, là, tu me changes ça parce que là, tu vas toucher à mon patrimoine. » Et François Mitterrand s'exécute et demande à Laurent Fabius de modifier la loi de l'impôt sur les grandes fortunes. Voilà, il ne faisait que répondre, si vous voulez, à quelqu'un qui l'avait financé depuis des années, alors que je pense que le peuple de gauche aurait souhaité cette loi, par exemple, qui était en matière d'équité, en matière de justice sociale, était adaptée. Voilà. Moi, j'ai voté pour François Mitterrand sur la base de ses 110 propositions qu'il avait indiquées à l'époque, dont, par exemple, il y avait aussi le référendum sur le nucléaire, il y avait le droit de vote des étrangers, il y avait la limitation d'extension d'hypermarchés, etc. Un certain nombre de projets, de points, qui, bien sûr, François Mitterrand les a rapidement abandonnés. Vraiment, je me bats toujours pour trouver une forme d'exercice du pouvoir où la personne est obligée de s'engager sur les points sur lesquels les gens l'ont voté. Encore une fois, si j'ai voté François Mitterrand en 81, c'était sur la base de ses 110 propositions. Il y avait aussi, je répète, désarmement, des points comme ça, l'égalité des salaires hommes-femmes. Tous ces points-là ont été oubliés par François Mitterrand une fois arrivé au pouvoir.
J'ai bien compris qu'effectivement, dans votre argumentation, il était important que ce tirage au sort permettait de garantir que les gens qui nous représentent, à l'intérieur d'assemblées populaires, donc ils ne seraient pas tout seuls, ils auraient des comptes à rendre, ne seraient pas au-dessus des lois, qu'ils défendraient en tout cas les intérêts de tous. Ce qui n'est pas, en fait, d'après ce que je comprends, le cas en ce moment.
Oui, Je suis convaincu, encore une fois, qu'un tirage au sort ferait en sorte que les problèmes seraient affrontés, je dirais, de façon... Les gens prendraient à bras le corps un certain nombre de sujets qui actuellement sont mis de côté parce que n'étant pas perçus comme étant populaires. Je vais prendre un exemple. Nous savons tous, nous le répétons nous inlassablement, que nous sommes sur une planète avec des ressources limitées, quoi, en fait, hein, que ce soit l'uranium, le pétrole, etc. Donc, nous le savons, nous, que pour ne pas dépasser les capacités physiques de cette planète, à la fois à libérer les ressources et à assimiler les déchets produits par l'activité économique, nous devons diviser par 3 notre consommation de biens matériels, quoi. À l'inverse du discours de la croissance, c'est-à-dire que, pour faire le lien, je dis souvent que la croissance est un concept intrinsèquement guerrier. C'est la guerre aux écosystèmes, ça je crois que maintenant tout le monde... Mais c'est aussi la guerre aux pays du Sud. Alors, là j'insiste là-dessus, c'est que pour faire de la croissance, nous avons besoin de pétrole, nous avons besoin d'uranium, nous avons besoin de cuivre, etc., de matières premières que nous n'avons pas, et ce sont les pays du Sud qui en disposent. Donc, quand je dis que la croissance est guerrière, ça veut dire qu'il faut se pencher un petit peu, si vous voulez, sur les écrits de quelqu'un qui s'appelle François-Xavier Verschave, de l'Association Survie, qui, dans ses ouvrages, décrit bien comment la France a toujours soutenu les dictatures dans les pays du Sud pour nous permettre d'accéder à ces ressources. Et ça, encore, ça transcende les clivages, puisque les réseaux de Jacques Foccart ont été soutenus à la fois par des gouvernements de François Mitterrand, comme ceux de Jacques Chirac ou de Valéry Giscard d'Estaing. Tous les gouvernements ont soutenu les réseaux Foccart. Alors, le pillage du continent noir, bien sûr, est absolument indispensable au maintien de notre mode de vie, et effectivement consumériste, très énergivore. Donc ça, effectivement, ça a nécessité de mettre des dictateurs à la tête des États qui devenaient nouvellement indépendants. Alors, il y a l'exemple du Tchad avec Idriss Déby, du Congo avec Sassou Nguesso, et du Gabon avec Omar Bongo, etc. On peut s'arrêter un instant sur, par exemple, le Cameroun, où à la tête du Cameroun, nous avions l'équivalent de Mandela, quelqu'un qui s'appelait Rumen Om Niobe, qui a été écrasé entre 57 et 70, dans un véritable bain de sang qui était digne de la guerre du Vietnam, puisqu'il y a eu 400 000 morts quand même, quoi. Un autre exemple qu'on peut citer, c'est en mars 1974, lorsque le Nigérien Amani Diori a voulu vendre son uranium ailleurs qu'à la France a organisé immédiatement un coup d'État contre lui, quoi. On peut encore citer le Congo-Brazzaville, par exemple, qui est un pays qui a beaucoup de pétrole, et tous les gouvernements, Mitterrand, Chirac, De Gaulle, avec Alfred Sirven, ont maintenu une dictature pour continuer à accéder au pétrole, etc.
Clément Whitman, je vous interromps pour passer une chanson de James Brown qui s'appelle Funky President, en se posant la question de savoir si justement on n'aurait pas besoin d'un président un peu iconoclaste pour nous sortir de l'ornière actuelle. Funky down. Nest. Hey, listen to the man. Godfather. Payback. Cold-blooded.
Godfather. Payback. Cold. jaw. We got to get over before we go under. Time in a jot. Oh, Lord. Could you do you know just what I meant? We just changed. We got a brand new funky president. Yeah! I need to be the mayor so I can change the things around here. I need to be the governor.
Est-ce que vous avez d'autres mesures de votre programme qui dénoteraient votre originalité et qui pourraient montrer qu'on puisse vous faire confiance en fait ?
Pour moi, ce qui est essentiel, c'est de retrouver un sens. Pour moi, la décroissance, c'est retrouver un sens à la notion de travail aussi. Par exemple, on fait des choses, on produit des objets, on fait des chantiers parce qu'il faut occuper du monde. Souvent, on me dit ça. On me dit, bah écoute, voilà, il faut faire ça parce que ça crée de l'emploi, quoi. On fait une autoroute, on fait un TGV, on fait parce qu'il faut occuper des gens. On fait des zones industrielles, on fait des zones artisanales, on fabrique des voitures, alors qu'effectivement, nos villes sont, enfin, je veux dire, ça, c'est pas un scoop. Toutes les villes sont complètement engorgées de voitures, avec des embouteillages, sont véritablement devenus des véritables chambres à gaz, quoi. Donc, et malgré tout, on continue à fabriquer des voitures. Quand je vois ces camions portant des voitures qui se déversent dans des zones où il y a déjà des concessionnaires avec des voitures partout, je me dis, c'est un peu finalement comme quelqu'un qui est sous à qui on donne encore de l'alcool, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il y a une urgence de s'arrêter. On réfléchit à ce qu'on va produire. Parce que si on continue, si vous voulez, dans cette logique du non-sens où on fabrique des choses simplement parce qu'il faut occuper des gens, créer de l'emploi, soi-disant, est-ce qu'on va recouvrir la France comme ça de zones industrielles, d'aéroports, etc. Non, je crois qu'il faut s'arrêter, réfléchir quelles sont les conséquences de nos activités sur les générations futures, parce qu'on est dans l'obligation quand même de laisser aux générations à venir une planète habitable, tout simplement. Voilà, ça suppose effectivement, j'insiste là-dessus, donc une réflexion sur le sens du travail, une réflexion qu'il faut mener de fond, c'est peut-être de la philosophie. On se situe à mi-chemin entre un programme politique et un programme philosophique.
Parlons de philosophie, qu'est-ce que vous pensez du fameux adage de la spiritualité un petit peu exotique, à savoir plutôt que changer le monde, se changer soi-même, parce qu'il est toujours très difficile, voire même impossible de convaincre quelqu'un de quoi que ce soit. Je ne me rappelle plus si c'est Einstein ou Eisenstein qui a dit « ce n'est pas la vérité qui gagne, c'est l'erreur qui meurt ». Et changer un système, c'est presque impossible. Donc plutôt que de changer le système, est-ce que c'est pas paradigmatiquement le véritable nœud du problème ? Au lieu de vouloir changer le monde et de convaincre les gens qui se trompent ou de me suivre ou de je ne sais quoi, plutôt orienter mon énergie vers me changer moi. S'il y a suffisamment de gens éclairés, à ce moment-là, il n'y aura plus besoin de convaincre qui que ce soit. Tout le monde sera autonome.
Oui, bien sûr. Ce travail-là, nous appelons ça, par exemple, décoloniser l'imaginaire. C'est un peu le travail qu'on fait, puisque je précise aussi que les objecteurs de croissance, au départ, ce sont des casseurs de pubs, le mouvement des casseurs de pubs, qui est à l'origine du mouvement de la décroissance et des objecteurs de croissance. Si nous sommes dans un monde aussi consumériste, aussi matérialiste, je dirais, c'est bien parce qu'il y a des marchands du temple, qui, depuis des années, nous abreuvent de messages. Nous sommes soumis, bombardés, je dirais même, de 4 ou 5 000 messages par jour. Quotidien.
Ceux qui veulent.
Oui, peut-être ceux qui veulent, mais je veux dire, pour quelqu'un qui écoute une radio, je dirais commerciale, et qui écoute, qui regarde une chaîne de télé, une des premières sur l'écran, puis les publicités sur Internet, par exemple, les panneaux sur les écrans, dans le métro. J'ai participé récemment à une réunion de casseurs de pubs à Paris. Il y avait un chercheur en neurosciences qui était là, qui nous a dit, effectivement, nous avons entre 4 ou 5 000 messages de publicité par jour. Donc, notre imaginaire est colonisé par ces messages-là, qui nous disent, effectivement, si vous ne possédez pas tel objet, vous êtes malheureux. Donc, il faut posséder tel objet pour ressembler, etc. Le phénomène du mimétisme, si vous n'avez pas telle voiture, vous n'aurez pas la fille, etc. Donc, ces comportements-là sont induits et sont encouragés par, pour moi, un cancer de la publicité.
J'entends bien ce que vous dites, mais... Vous n'avez pas tout à fait répondu à la question, c'est-à-dire est-ce que vous ne pensez pas qu'au lieu de vouloir changer le monde et de proposer un programme politique et vous engager dans ce dur combat présidentiel, vous ne feriez pas mieux d'aller vous installer dans un monastère et de commencer à méditer ?
Oui, j'aime bien méditer, mais pour moi, il y a véritablement une urgence quand même d'arriver à faire débattre ces choses-là sur la place publique. Je pense qu'il y a cette urgence démocratique, cette urgence climatique, et si effectivement on peut faire ce choix, un certain nombre d'objecteurs de croissance, d'ailleurs, je le dis, font ce choix d'aller vivre dans la simplicité volontaire, c'est un terme qui nous est cher, ce concept de simplicité volontaire, mais dans le même temps, si vous voulez, nous laissons la place libre à ceux, effectivement, qui continuent à vouloir nous maintenir dans ce capitalisme du désastre. Et moi, je n'ai pas envie de leur laisser le monopole de l'accès à la parole publique, quoi. Voilà, je n'ai pas du tout envie. C'est mon combat, si vous voulez. Je crois qu'il y a un langage de vérité, il y a une honnêteté intellectuelle à dire à la population, voilà la situation dans laquelle nous sommes, la situation écologique, la situation sociale, est-ce que nous l'aggravons, comment nous faisons pour réorienter les choses. Nous disons souvent que pour nous le choix est entre décroissance ou barbarie, quoi. Notre scénario dans lequel nous sommes, dans un scénario croissance et barbarie, alors pour expliquer ça, j'utilise souvent l'exemple de la pêche marocaine, à savoir qu'au 1er juin 2006, c'est l'Union européenne qui a fait l'acquisition de la pêche des eaux territoriales marocaines. Donc à partir du 1er juin, il y a 119 bateaux de pêche industrielle qui sont arrivés au large du Maroc et qui par conséquent ont condamné des milliers de petits pêcheurs marocains aux bidonvilles, à la mendicité, à la famine. Donc c'est des pêcheurs qui vivaient très simplement, qui respectaient les écosystèmes avec leurs pirogues, qui nourrissaient leurs familles. Et voilà une décision politique de l'Union européenne qui a été contestée par personne. Ni les forces de gauche, ni les forces écologistes présentes au Parlement européen n'ont contesté cette décision. Voilà, nous sommes là dans un, pour moi, véritablement un exemple de croissance et barbarie, puisque c'est une décision politique qui a condamné ces pêcheurs à la famine. On a l'équivalent en matière agricole, puisque au mois de mai de cette année, 22 investisseurs ont fait l'acquisition de 100 000 hectares de terre au Mali. Sur ces 100 000 hectares de terre, vivaient 110 000 petits paysans qui utilisaient la traction animale, qui nourrissaient leur famille en respectant les écosystèmes. Donc à partir du moment où ces 22 investisseurs ont pris possession de ces 100 000 hectares de terre, ils ont expulsé ces familles qui vivaient là, pour qui effectivement la seule issue c'était encore une fois de nouveau le bidonville, la pauvreté, etc. Voilà, nous sommes bien dans un système barbare. Le capitalisme des désastres tel qu'il est très bien expliqué par Naomi Klein dans ses ouvrages et dans ses films, etc.
En ce moment, l'actualité de toute façon semble vous donner raison, hein. Il y a beaucoup de signes qui semblent annoncer que le système capitaliste vit des soubresauts, il annonce peut-être sa fin, hein. On ne sait jamais. Mais est-ce que vous ne pensez pas que cette notion de simplicité volontaire, cette notion de décroissance volontaire aussi, est-ce que les gens sont capables de le vivre sans traumatisme en fait ? Bien sûr que le chaos arrive avec ce système qui est en train de s'effondrer, mais est-ce que votre proposition d'adopter un rythme de vie simple, et puis qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens qu'on ne pourra plus employer à faire des choses inutiles ? Qu'est-ce qui va se passer s'il n'y aura pas d'une transition difficile ? Serait-il possible de passer d'un système à l'autre sans soubresaut, sans émeute et sans famine ?
Non, absolument pas. Moi, je crois que c'est enthousiasmant de partir, de quitter une logique mortifère pour aller vers quelque chose de sympathique, de joyeux, de convivial, quoi. C'est bien plus enthousiasmant que de rester dans cette négation des écosystèmes et du climat. Je prends l'exemple souvent d'Amsterdam, que moi j'apprécie particulièrement pour y circuler quelquefois à vélo. Vous la confiez à Jacques Attali, Nicolas Bavrez ou un de ses tenants de la croissance. Eh bien, ils vont effectivement pouvoir faire de la croissance à Amsterdam. Ils vont éliminer les vélos, remplacer les vélos par des voitures. Mais pour autant, vont-ils créer du bien-être, vont-ils créer du joie de vivre? Non, je crois qu'ils vont transformer Amsterdam en un véritable enfer, quoi. Donc la question, encore une fois, elle est là. Est-ce que nous voulons améliorer le cadre de vie, améliorer les conditions de vie? Encore une fois, par des mesures très simples, hein. Qu'est-ce qu'on attend d'une politique? Je prends aussi souvent quelque chose pour moi qui est important, c'est de démontrer que là, nous sommes dans les premiers temps, nous avons à prendre en charge les conséquences de la croissance. J'étais, il y a quelques semaines, dans les Côtes d'Armor, j'ai rencontré un maire qui était concerné par les algues vertes, hein, donc une des conséquences de cette agriculture industrielle. Et m'a-t-il dit, en 2010, sur 4 communes, le budget nettoyage de plage était de 800 000 euros, quoi. La collectivité est obligée maintenant, il y a une collectivisation des coûts, alors une privatisation des bénéfices et donc une collectivisation des coûts. Là, c'est un exemple parfait, si vous voulez, de choix politiques qui ont été faits, de dire voilà, la Bretagne doit devenir une région de production industrielle, agricole, de production industrielle agricole, puisqu'en Bretagne, il y a 14 millions de porcs, il y a 100 millions de volailles, quoi. Voilà, avec toutes les conséquences que, en termes d'environnement, que maintenant nous sommes obligés collectivement de prendre en charge, quoi. Voilà, alors que peut-être, là je reviens à mon idée de tirage au sort et à ma proposition de tirage au sort, si des assemblées populaires avaient pris en charge cette question agricole en disant quelle agriculture voulons-nous, eh bien peut-être qu'on n'aurait pas cette agriculture industrielle qui produit des aliments pollués, etc., qui a avec des conséquences sur l'environnement, qui a vidé aussi les villages de ces agriculteurs. Peut-être qu'on aurait dit, ben voilà, nous ce qu'on attend d'une agriculture, c'est d'occuper un maximum d'actifs, de ne pas avoir de conséquences sur l'environnement et de produire des aliments de qualité. C'est ça qu'on veut comme agriculture et nous ne voulons pas d'une agriculture industrielle avec les conséquences, encore une fois, en termes d'algues vertes, de pollution des rivières, etc.
Alors, est-ce qu'on vous prend au sérieux dans l'arène politique actuelle ? Est-ce que le parti des objecteurs de croissance fait peur ? Ou est-ce que vous êtes des ennemis ? Ou est-ce qu'on vous ignore ? Où est-ce que vous en êtes dans l'échiquier politique ?
Eh bien, non, je pense qu'on peut prendre au sérieux, oui, certainement. Dans mes rencontres avec les élus, quand j'aborde les questions vraiment politiques et qu'on sort un peu l'anecdote de la campagne et sur les aspects pratiques de la circulation en vélo, essentiellement, des choses comme ça. Par contre, effectivement, on ignore l'objection de croissance. C'est un sujet qui ne doit pas arriver sur la scène. Il y a des barrages pour que ce thème arrive. On retrouve là effectivement ce problème de cette collusion entre le monde médiatique, le monde politique et le monde des affaires qui est propriétaire de la fabrique de l'opinion, comme dirait Noam Chomsky, quoi.
Vous avez évoqué le problème de l'hôpital de Die qui est en danger et qui, par voie de conséquence, s'il était supprimé, aggraverait le problème des déplacements et donc du CO2 dans l'atmosphère. Vous avez des propositions concrètes en matière de santé publique ?
En matière de santé publique, bien sûr, il y a de multiples propositions. Donc, à savoir, bien sûr, quand je disais tout à l'heure de réduire la place de la voiture en ville, on réduit déjà un certain nombre de pathologies occasionnées par la pollution atmosphérique. Et puis, pour revenir à cette question de l'hôpital de Die et des hôpitaux en général et des services de santé, là encore, c'est le pacifiste qui parle, si vous voulez, de réorienter les budgets consacrés à l'armement vers des activités sociales et des activités, je dirais, civiles, quoi. C'est absolument urgent. J'ai encore cité quelques chiffres. Les dépenses d'armement étaient de 45 milliards d'euros. Les aides sociales sont de 800 millions d'euros, quoi. Voilà. Avec la dépense d'un Mirage 2000, on peut faire fonctionner un hôpital. Avec un missile nucléaire, on peut faire fonctionner 70 écoles. Et avec un sous-marin nucléaire, on peut payer 20 000 enseignants pendant 5 ans. Là aussi, ce sont des choix de dépenses, des choix budgétaires qui peuvent permettre de réhumaniser nos sociétés. Je préfère, encore une fois, payer des enseignants que de payer un sous-marin nucléaire.
Certes, mais c'est toujours la peur qu'un pays qui cesserait d'avoir un budget militaire pourrait se faire phagocyter par ses voisins plus guerriers.
Oui, mais non seulement cette course à l'armement n'a pas de sens, si vous voulez, parce que si on veut toujours avoir des plus gros bras que le voisin, ça n'en finit pas. Et c'est absolument insupportable pour les budgets. Là aussi, je voudrais faire la transition peut-être avec le problème de la Grèce. Il faut savoir ce que les médias nous disent très peu. Si la Grèce est aussi à ce point d'endettement, c'est parce que la Grèce est le 4e importateur d'armement mondial, quoi. Je ne suis pas certain que ce soit d'intérêt général pour la Grèce de s'équiper comme ça. Moi, je suis un partisan de la résolution non violente des conflits. Imaginez, je dirais, à l'échelle d'une commune, si deux voisins commençaient à avoir des conflits entre eux, est-ce qu'ils peuvent les régler par les armes ou par un tribunal, quoi ? Je préfère quand même le tribunal.
Certes, mais bon, est-ce que vous pouvez forcer à quelqu'un qui est pathologiquement guerrier à s'asseoir à une table ?
Oui, j'ai participé il y a quelque temps aussi à un forum de la paix à Paris où j'ai rencontré un certain nombre d'ONG dont le travail a été justement dès l'apparition d'un conflit entre tribus, entre deux pays voisins, d'intervenir pour proposer leur service pour arriver donc à cette résolution non violente en disant sur quoi porte le conflit. Si le conflit porte sur l'accès aux ressources, eh bien la juste répartition des ressources permet d'éviter le conflit. Là aussi, pour moi, je crois que la solution à la délinquance, c'est de mettre fin aux injustices, quoi. C'est une des premières mesures qui permettrait d'éviter cette délinquance. Quand je dis décroissance ou barbarie, nous avons déjà affaire à des conflits pour l'accès à ces ressources, encore une fois, stratégiques qui permettent notre développement économique. Même l'accès à l'eau, par exemple, est devenu dans certains pays source de conflits, et pas seulement les pays du Sud, puisque j'ai vu récemment un documentaire sur la ville de Las Vegas, qui est obligée d'aller de chercher l'eau de plus en plus loin, avec pour conséquence de faire tarir des sources indispensables aux paysans. Un point peut-être aussi quand même sur cette question des armements. Là aussi, c'est un fait d'actualité puisque ces contrats, ces ventes d'armement donnent souvent lieu à des commissions, des rétrocommissions. Nous l'avons vu avec l'affaire de Karachi, etc. Et tout récemment, je rappelle donc pour mémoire qu'en 1991, Michel Rocard avait signé la vente de 6 frégates à Taïwan. C'est un contrat pour lequel les rétrocommissions ont dépassé tous les records puisque sur ce contrat, il y a eu 20,8% de commissions et de rétrocommissions. Et donc, le juge Van Rumpen, quand il a été chargé de l'enquête pour savoir qui a bénéficié de ces commissions, à chaque fois les ministres des Finances Thierry Breton, Francis Maire, Laurent Fabius ont opposé le secret défense. Si bien que au 1er juin de cette année, un tribunal arbitral a condamné la France à rembourser les 460 millions d'euros de rétrocommissions. Donc maintenant la France s'est engagée à rembourser, était obligée de rembourser cette somme. Alors pour rembourser cette somme, les prélèvements ont été faits sur un certain nombre de ministères. C'est tout à fait extraordinaire puisqu'il y a 57 millions d'euros qui ont été pris sur le ministère de l'Éducation nationale, 8,6 millions sur l'aménagement aux quartiers pauvres, 8,3 millions sur la justice des mineurs et sur les prisons, et aussi 6 millions d'euros ont été prélevés sur les budgets du RSA et du RMI pour rembourser les 460 millions d'euros à Taïwan. Voilà.
Bien, Clément Whitman, merci d'être passé à RDIWA pour parler de vos propositions, hein, sachant qu'en cette période de turbulence, nous avons besoin de gens qui nous parlent de propositions sensées. Va-t-on vous croire? Ça, c'est un autre problème. Moi, je vous souhaite d'obtenir ces 500 signatures pour que vous puissiez au moins faire en sorte que vos idées soient sur la place publique. Au revoir.